18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Merci d'être avec nous ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Du sport, il en est question bien sûr comme chaque soir jusqu'à 19h, 100% synthé avec toute l'équipe ici présente pour parler justement de l'AS Saint-Étienne, de ce match, de ce week-end, cette défaite. À ma gauche, eh bien c'est Rodolphe Montagnier, bonjour Rodolphe.
Bonsoir Kevin, bonsoir à tous.
On a également Joris Sabi, bonjour Joris.
Bonsoir Kevin, bonsoir à toutes et à tous.
Je leur dis bonjour mais ils me disent tous bonsoir.
C'est ça, parce que nous on est là depuis ce matin tôt. Contrairement à vous.
Oh bah oui. Et puis Paul Rivoli également qui est avec nous. Bonsoir Paul.
Salut Kevin. Bonjour à toutes et à tous.
Ah voilà, bah voilà, c'est un bonjour là cette fois-ci. On va parler bien sûr de ce match, de cette défaite ce week-end face à Ajaccio. On va également parler de la défaite, je suppose, des féminines aussi qui avait lieu également ce week-end. Est-ce que ce soir l'AS Saint-Étienne va garder sa position de seconde place, hein, tout simplement, ou non? Est-ce qu'on va dégringoler à la troisième place? Eh bien, on le découvrira aux infos demain, bien sûr. Mais avant ça, on part en musique ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
Et la musique, elle arrivera tout à l'heure. On parle de ce match et de cette défaite. Bon, je vais pas dire lourde défaite, hein, parce que c'est seulement 2-0. Paul Rivoli est avec nous, bien sûr, du site Evect. Joris également, Rodolphe. Cette défaite 2-0. Vous pouvez aussi réagir sur l'antenne 04 77 10 00 010. Une défaite un peu, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Litigieuse?
Oui, litigieux, je pense que c'est le mot.
On peut le dire.
C'est le mot. Après, je pense qu'à l'image de ce qu'ont déclaré les acteurs de la rencontre, il y a eu des faits de jeu, il y a eu aussi un match raté de la part de l'AS Saint-Étienne. Je pense que c'est ça qu'il faut évoquer en premier lieu, parce que certes, les faits de jeu ont une grande conséquence sur le déroulé du match, mais il faut dire que de toute façon, dans la première mi-temps, malgré ce pénalty inexistant, il y a quand même une défaillance de l'AS Saint-Étienne qui n'a pas su renouveler les performances qu'elle avait été capable de faire ces dernières semaines, même si c'est peut-être un peu à l'image des dernières sorties stéphanoises qui étaient loin d'être convaincantes face à Concarneau notamment, où les Verts s'étaient imposés mais avaient galéré. Et je pense que voilà, ils sont restés dans cette continuité-là. Et on l'avait dit d'ailleurs après dans les débriefs de ces matchs-là, pas forcément aboutis, que ça ne passerait pas à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est pas passé du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc je pense que tous les acteurs ont été honnêtes avec ça, en reconnaissant que le match avait été raté de leur part. Et qu'il va falloir en mettre beaucoup plus sur ces 6 finales qui restent si on veut espérer pouvoir remonter en Ligue 1.
Un fait de jeu, il y en a eu un juste avant, en fait, ce début de match aussi, avec ce changement de dernière minute dans la composition. Est-ce que ça a pu impacter au final cet effectif? Est-ce que ça a pu impacter aussi ce match?
Oui, rappelez que Ibrahim Sissoko n'a pas démarré cette rencontre alors que c'est lui qui aurait dû occuper la pointe de l'attaque de l'AS Saint-Étienne, blessé au mollet. Alors, il passera une IRM demain. On a pris les informations cet après-midi pour connaître la nature et surtout sa durée d'indisponibilité sur les semaines à venir. Ça sentait quand même pas très bon concernant les propos d'Olivier Dalloglio après la rencontre. On espère qu'on va pas le perdre trop longtemps. Il est évident, Kevin, que cette absence, elle a changé un petit peu la façon d'appréhender la rencontre. On a vu que les Verts avaient lancé beaucoup de ballons en profondeur, beaucoup de longs ballons, et sans un point d'appui comme Ibrahim Sissoko, ça a été plus difficile, surtout quand vous le remplacez numériquement par Nathanaël Mboukou et que vous remettez Cardona dans l'axe. Je pense que ça a pas facilité les choses pour les Stéphanois, couplé à ça la suspension de Masson et toujours l'absence de Denis Sapia. Il manquait quand même pas mal de monde au coup d'envoi, et ce qui a peut-être porté préjudice aux joueurs d'Olivier Dalloglio.
On fera bien sûr le point sur les joueurs qui vont manquer aussi peut-être au prochain match. Avant ça, donc on revient sur cette défaite 2-0. C'était face à Ajaccio. On partait pas forcément ce match. Si, on partait quand même favori, non?
Oui, forcément. Enfin, Ajaccio restait sur une dynamique catastrophique en Ligue 2, et l'AS Saint-Étienne qui était deuxième et qui avait cette volonté de garder ce fauteuil qui lui permettra en fin de saison de monter directement si on garde cette deuxième place. Donc les Verts étaient favoris au coup d'envoi malgré ses nombreuses absences, mais en tout cas on n'a pas endossé le costume de favori de la bonne manière, puisque sur le terrain ça s'est pas ressenti, même si on aura l'occasion d'y revenir dans l'émission. On n'est pas tombé sur un grand Ajaccio non plus, hein. Ça n'a pas été un match dominé de la tête et des épaules par les Corses, mais peut-être mieux appréhendé. En tout cas, ils ont su faire la différence dans les bons moments, bien aidé aussi par Monsieur Lega qui n'a pas fait sa meilleure prestation. Et derrière, les Verts se sont montrés incapables de réagir, parce que je pense que Paul et Rodolphe seront d'accord avec moi. On est quasiment incapable de citer une seule occasion franche de l'AS Saint-Etienne dans cette rencontre, et ça fait un petit peu mal.
Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on disait quand on était en direct ce jour-là, ce samedi-là, on se disait, je crois que c'est Paul Bouc qui posait la question de savoir est-ce qu'on avait trop se souvenir d'une action dangereuse de l'AS Saint-Etienne. C'est ça finalement que moi je trouve le plus inquiétant, c'est qu'on n'a pas eu affaire à une grosse équipe ajaxienne, on n'avait pas une grosse équipe stéphanoise, et on n'arrive pas à revenir au score, parce que litigieux, vous avez raison, moi sur le penalty, je suis tout à fait de votre avis, ça me paraît tellement grossier que bon, on va tourner la page, on va en rire, on va en plaisanter, je crois, disait Olivier Daloguio, donc on va en plaisanter. En revanche, sur le deuxième but, on ne plaisante plus, parce que là, c'est vraiment une grosse erreur de marquage, une grosse erreur de défense, une grosse erreur d'attention. Et puis derrière, vous avez trois quarts d'heure pour redresser la barre, et puis vous ne le faites pas, donc c'est ça qui me préoccupe, moi, pour la suite. On disait que ça allait se jouer au mental, ça allait se jouer à la réaction, et ben finalement, on s'aperçoit que cette équipe-là, quand elle est privée de un ou deux éléments, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'Ivan Masson, ça bouscule un peu l'équipe, parce qu'on redispatche les joueurs, et notamment Imen Mouefek, qui est l'impact physique qu'il a, et l'absence d'Ibrahim Sissoko, ça change quand même pas mal tout. Et vous l'avez dit, Paul, je pense qu'Ibrahim Sissoko, sauf bonne nouvelle, hein, mais il a parlé plutôt d'une blessure, Olivier Daloglio, c'est ça les mots qui m'ont surpris à la fin, et pas d'un petit tiraillement, lui, d'une blessure vraiment. Si c'est une blessure, c'est minimum 3 semaines, ouais, donc ça veut dire quasiment la fin du championnat, il nous reste un mois, avec la réathlétisation, c'est quasiment sans lui, c'est ça qui me préoccupe, voilà, c'est la suite qui me préoccupe, donc tout de suite la réaction, Bordeaux, tout de suite j'ai envie de me projeter à Bordeaux, et j'attends de voir la réaction de cette équipe-là, mais effectivement, moi j'avoue que ça, mais vous me connaissez, je vous l'ai dit moi depuis le début, j'avais le sentiment que cette formation-là, oui non mais c'est vrai, je vous l'ai dit, hein, depuis le début, moi j'avais ce sentiment que cette formation, elle n'était pas capable d'aller plus vite, plus loin.
Il ressort du bois, Montagnier, on l'a pas entendu depuis 8 journées, il y a une défaite,
regardez, il jubile. Vous êtes dur avec moi, parce que la semaine dernière, je entendu bien sur les réseaux me moquer allègrement alors qu'on était deuxième, qu'on regardait la Ligue 1. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça, effectivement. Mais une fois de plus, je pense qu'ils ont quand même toute leur chance. Honnêtement, ils n'ont pas gagné à Grenoble. Les résultats sont plutôt favorables. La configuration est quand même favorable, il ne faut pas exagérer.
Vous pouvez bien sûr intervenir sur notre antenne 04 77 10 00 10. Comme Lambert, bonsoir Lambert. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Comment ça va?
Ça va.
Vous avez suivi les matchs, hein, je suppose,
ouais,
ce week-end.
Ouais, je l'ai regardé.
Alors, votre avis?
Bah, après, moi, avant de parler du niveau de l'équipe, je vais revenir sur l'action du pénalty, parce qu'il y a quand même faute sur Florent Tardy au milieu. Derrière, il y a une frappe qui amène le corner, et derrière, il y a un pénalty qui est plus que litigieux. Et en plus de ça, il met un rouge à mon conduit qui est carrément un scandale. Donc moi, il va falloir m'expliquer ce que les arbitres ils disent en début de saison dans les réunions aux joueurs. Ils leur disent qu'il faut être compréhensif que machin, mais là, mais cet arbitre-là, faut qu'il soit rétrogradé en régional. C'est pas possible de faire des erreurs.
Ah, c'est votre truc, ça, Lambert, le régional. Non, les joueurs, les arbitres, vous envoyez tout le monde à chaque fois.
C'est inadmissible, parce qu'après, on n'a pas été bon, mais je suis désolé, mais le pénalty, je change toute la physionomie du match. Parce que on est diminué par la blessure d'Ibrahim Sissoko, on est diminué par l'absence d'Ivan Masson. Tu prends un but au quart d'heure de jeu, ça change tout ton plan de jeu. Sur un pénalty qui est loin d'être justifié. Après, on n'a pas été bon. Et moi, après, Aymen Mouefek latéral, je trouve que c'est pas ce qu'il fallait faire. Pourquoi pas mettre un Léo Pétro à gauche et faire monter un jeune de la réserve, ou à droite, pardon, et faire monter un jeune de la réserve, ou je sais pas, je pense qu'il y avait autre chose à faire. Après, ce qui est inquiétant, bah, c'est dans le jeu, mais déjà, contre Concarneau, on gagne 1-0 contre Concarneau, mais dans le jeu, ça n'a pas été mirobolant. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est que j'ai l'impression qu'on retombe sur les travers du début de saison où il n'y a rien qui est favorable. Il y a les blessures, il y a l'arbitrage, dans le jeu, on n'y est pas. Enfin, il y a plusieurs petits signaux qui m'inquiètent un peu pour la fin de saison.
Messieurs.
Ouais, sur l'arbitrage, parce que bon, on va quand même l'évoquer, il y a ces deux erreurs qui sont flagrantes, ça nous coûte le match, ça nous coûte au moins un point sur ce match-là, parce que ce penalty sans ce penalty, je pense pas qu'Ajaccio ouvre le score, il y a pas vraiment de situation, et ce carton rouge, il est complètement lunaire, mais après, faut aussi reconnaître, et on l'a dit en direct samedi à la radio, il y a quand même, sur une saison, ça s'équilibre, je veux dire, il y a deux ou trois semaines de ça face à Auxerre, on peut terminer la première mi-temps à 9, et on était les premiers à être heureux que l'arbitre ce jour-là soit trompé. Donc voilà, ça s'équilibre sur une saison. Enfin, peut-être pas pour tous les clubs, à 60 km d'ici, visiblement pas, mais en tout cas, du côté de la Ligue 2, je trouve que ça s'équilibre plutôt et que la Saint-Etienne n'a pas été désavantagée plus qu'une autre en Ligue 2 cette saison. Donc je pense pas qu'il faut se cacher trop derrière ça.
On embrasse Mehdi qui réalise cette émission et qui, bien sûr, est un supporter des voisins. Hein, qui nous insulte là dans les ordres actuellement, Mehdi. C'est pas très Charlie, ça, Mehdi.
Messieurs, vous pouvez bien sûr continuer à réagir ici, 04 77 10 00 10. Merci beaucoup Lambert d'avoir, d'avoir appelé tout simplement pour partager votre point de vue. Au revoir Lambert. Nous on revient bien sûr ici sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. On parle de cette défaite de la SS ce week-end tout simplement. Ne bougez pas, restez avec nous.
100% synthé sur France Bleu Saint-Etienne-Loire.
France Bleu Saint-Etienne-Loire, partenaire de l'Hippodrome de Saint-Galmier. Ce dimanche 21 avril, course hippique et marché des créateurs. À partir de 13h, réunion de course régionale avec 7 courses de trot au programme. Pour cette journée, l'Hippodrome ouvrira ses portes à un marché de créateurs et d'artisanat local. Objets du quotidien, déco, cadeaux vous seront présentés par plus de 30 créateurs et artisans locaux. Une tombola gratuite pour gagner des places à l'aréna ou pour encourager le SCBVG. Toutes les infos sur les réseaux sociaux et le site officiel de l'Hippodrome de Saint-Galmier.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
Merci d'avoir choisi France Bleu Saint-Étienne-Loire pour vous accompagner en ce lundi soir 15 avril. On parle dans 100% synthé de sport, on parle de foot notamment avec ce match qui avait lieu ce week-end, avec bien sûr toute l'équipe ici présente dans les studios, avec notamment Paul Rivolier, également Joris Sabier, puis Rodolphe Montagnier. Ça va toujours messieurs?
Ça va.
Bon, on parle
on a
de...
perdu, mais ça va. Pas vu beaucoup de victoires ce week-end. Ouais, personnellement,
super week-end. On a vu des buts. Hein.
Il y a Mehdi qui dit qu'il. Il y a Mehdi qui dit qu'il a vu une victoire pas loin. Bref, Patrick est également avec nous ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bonsoir, Patrick.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez?
Salut, bien, Patrick. Bonsoir, Patrick.
On vous écoute, Patrick. Oui.
Ok, bon ben, je rejoins un peu Lambert, mais avec une petite différence. C'est vrai que l'arbitrage change parce que même s'ils étaient pas bien, et bon, il y a beaucoup de facteurs qui étaient qu'on peut donner comme excuse. Sissoko, le fait effectivement que Moïse qui était pas au milieu, et puis que derrière il n'y avait pas Masson. La seule chose, bon, à propos de l'équilibré, je suis pas complètement sûr que par exemple cet arbitre apparemment il a coûté presque 6 points.
On va y revenir bien sûr sur l'arbitrage dans quelques minutes ici, Patrick, mais sinon sur le reste du match, quel est votre...
Sur le reste, moi ce que je pense, c'est que avec un peu de chance, les résultats, on peut quand même remarquer une chose, ils sont surprenants de toute manière. Auxerre fait battre 4 points à Rouen, Laval en 3-0 chez lui, ce qui montre bien que dans cette Ligue 2, il faut quand même relativiser, tout est possible dans tous les sens.
Bien entendu, Patrick, je voudrais vous poser une question, permettez-moi. Oui. Est-ce que vous croyez à la thèse de l'accident sur ce match? Et d'ailleurs, je voudrais élargir la question en studio. Bah, moi, est-ce que vous pensez que les Verts ont peut-être tout simplement sont passés à côté et que ça pourrait ne pas se reproduire?
Ok, je dirais que j'attendrai de me prononcer, je vais être un petit peu
prudent. C'est ça. Attends de connaître le score pour avoir un avis pronostic.
Non, je vais vous dire, ok, c'est peut-être un accident, mais on le saura après Bordeaux. Je crois que comme vous avez dit si bien au début de l'émission, ils n'ont pas le choix, il va falloir montrer autre chose. Et bon, ils ont le retour de Masson, peut-être Apia, peut-être Wadji, on verra. Eh bien, bon, ils ont l'équilibre dans les lignes, ils n'ont pas d'excuses, Serge Poignissa, et peu importe le résultat, il faut qu'ils gagnent. Et là, on dira, ok, bah, c'est un accident, c'est reparti. S'il n'y a pas de résultat contre Bordeaux, bah, c'était pas un accident.
Joris Sabi, vous y croyez, vous, à la thèse de l'accident?
Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est plausible. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'après une telle série en première partie de saison, les Verts, c'était pas un accident, ou alors un gros accident, un accident en chaîne, si je puis dire. Ouais, puisque les Verts avaient enchaîné 5 défaites consécutives en Ligue 2, si on oublie la Coupe de France. Donc voilà, il va falloir que les Verts réagissent, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans le même contexte, dans le sens où on est sur un sprint final. Et là, les Verts le savent que les jokers, ils sont tous grillés. Il y avait une statistique que notre statisticien qui sortait hier, c'est une des premières sur les 15 dernières années, la Saint-Etienne serait une des premières équipes à monter avec autant de défaites en Ligue 2, 10, c'est du quasi jamais vu sur les 15 dernières années. Donc voilà, on a la chance d'être encore en course pour cette montée en Ligue 1, mais là les jokers ils sont tous brûlés depuis maintenant plusieurs semaines je pense, et que là il n'y aura plus le droit à l'erreur parce que Angers, on a grillé aussi des jokers, mais maintenant ils ont quand même la balle dans leur camp pour
position
pour
de force ce soir. La théorie de l'accident,
la thèse de l'accident, non moi j'y crois pas, mais la thèse du rappel à l'ordre, oui. Et une fois de plus, vous savez, on le connaît ce contexte. Vous voyez, on était tous la semaine dernière en train de se dire la Ligue 1, on regardait quand même, honnêtement, on en plaisantait au micro, mais c'est ça, la Ligue 1, quand, et les joueurs disent la même chose. Évidemment, ils disent la même chose. 7 matchs sans défaite, on commence à y croire, forcément. Et bing, là, on prend une gifle. Comme dit Patrick, maintenant, il faut pas attendre l'autre jour face à Bordeaux. C'est tout. Donc, la thèse de l'accident, non. Mais du rappel à l'ordre, oui, c'est pas mal.
Oui. Paul,
Patrick, vous êtes d'accord avec tout ça?
Complètement, complètement. C'est évident. C'est vraiment aussi... J'ai l'impression, je suis le football depuis plus de 40 ans, que cette année, j'ai jamais vu des choses comme ce que je vois. Même en Ligue 1, on regarde Lyon contre Brest, 4-3, mais qu'est-ce que c'est que ça? On se croit au tennis, presque.
Ah, même parce qu'ils jouent à 12 contre 11, c'est plus facile.
On vous invite à regarder résumé du match.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci, Patrick.
Bonne journée à vous.
Avec grand plaisir.
Merci. On continue, bien sûr, de parler de ce match. On va parler de l'arbitrage aussi également qui a eu lieu ce week-end. Mais pour le moment, retour en musique avec Kenji Girac, Color Gitano. C'est pour vous ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est parti, on danse ensemble.
C'est une façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. C'est des guitares des nuits sans fin, les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau.
Color Gitano sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 100% synthé, ça continue jusqu'à 19h. On parle bien sûr de foot et des verts avec Paul Rivolier, Joris Sabi, Rodolphe Montagnier. Rebonsoir messieurs. On parle de foot, on parle de cette cette défaite de l'ASS Saint-Etienne qui a eu lieu ce week-end, 2-0 face à Ajaccio, avec, on le disait en début d'émission, un arbitrage litigieux. C'est vraiment, oui, on dit ce mot, litigieux.
Oui, c'est vrai que si les Stéphanois n'ont pas été convaincants, et on ne se cache pas derrière l'arbitre, hein, d'ailleurs du côté côté des Verts. Ils sont quand même pas été aidés par les décisions de Monsieur Lega, à commencer par ce penalty sifflé pour une main supposée de Benjamin Bouchouari dans la surface de réparation. Sauf qu'à la vue des différents ralentis, Benjamin Bouchouari, il touche pas le ballon de la main.
Ce qu'on disait d'ailleurs, Paul, en direct, c'est a priori l'arbitre assistant qui prévient l'arbitre central, alors que l'arbitre assistant, lui, est bien face à Benjamin Bouchouari. Hein. Encore l'arbitre assistant, on peut imaginer qu'il est gêné par peut-être un ou deux joueurs devant lui, mais l'arbitre sur le côté, honnêtement, je tombe d'un peu des nues quand même.
Hein. C'est à mon sens qui peut presque excuser Monsieur Lega sur cette prise de décision. À partir du moment où c'est pas lui qui la prend, il est soumis à l'interprétation de ses assistants. Son assistant s'est trompé. On a vu, de toute façon, ça a tergiversé. Il y a une ou deux, trois secondes avant que le penalty soit sifflé.
C'est vrai que si c'est le cas, c'est presque encore plus une faute d'arbitrage, je trouve, parce que si l'arbitre assistant n'est pas sûr de lui, pourquoi aller l'indiquer? Je veux dire, Monsieur Lega n'a pas pris de décision, c'est lui l'arbitre central. Il appelle son arbitre central pour lui dire il y a pénalty, il y a main, et il s'avère qu'à la vue des images, il n'y a pas main. Je trouve que c'est encore plus problématique. Je veux dire, ils n'auraient pas vu la main. Bon, là, c'est en notre avantage, c'est facile de dire ça, mais dans une action comme ça, bon, et ben, ça serait passé comme ça arrive tous les week-ends. Par contre, le fait qu'il signale un fait qui n'a donc pas eu lieu, que son arbitre n'avait pas vu, et qu'il alerte son arbitre pour lui dire que la bonne décision c'est ça et qu'au final il se trompe, je trouve ça assez problématique.
Et je me permets juste, Paul, si vous permettez aussi, de vous dire que la VAR ne résout rien sur ce cas-là.
Non.
On a encore vu hier soir, pas très loin d'ici, que même quand il y a des images flagrantes, on est capable
aussi,
de. Bah oui, mais donc ça veut dire que celui qui fait la VAR dans le bus, il est aveugle aussi.
Ah non, mais
donc ça veut dire que vous avez des aveugles sur le terrain et des aveugles sur la VAR. Donc
franchement, s'il y avait eu la VAR sur ce match,
je pense qu'il a annulé le penalty.
Joris, vous dites ça, mais regardez hier soir, c'était tellement flagrant que personne ne l'a vu.
Non, mais hier soir,
il y a le contexte, on connaît.
Ouais, mais c'est vrai, non, mais au-delà de la plaisanterie, je trouve que le VAR ne résout finalement, là, dans ce cas-là, rien.
Vous avez potentiellement raison. L'autre, alors il y a ce pénalty qui est sifflé, qui est marqué. L'autre cas litigieux, c'est l'expulsion de Thomas Monconduit, messieurs, à 10 minutes du terme de la rencontre. Thomas Monconduit fait faute sur une contre-attaque des ACistes, fait un petit crochet à Yann Tousgar qui s'en va en contre-attaque. Voilà, faute d'anti-jeu à 80 mètres des buts, comme il y en a 4-5 par match. Surprise générale, carton rouge direct pour Thomas Monconduit.
Ouais, là je pense que c'est encore plus scandaleux parce que là il est à 1 mètre de l'action, je pense, Monsieur Lega, il met le carton rouge, je pense, je me mets dans sa peau, je pense qu'il voit une semelle de Thomas Monconduit, et maintenant on sait que ces semelles, quand elles sont un petit peu plus haut que la cheville, elles sont toutes systématiquement sanctionnées d'un carton rouge. Je vois pas d'autre explication, parce que s'ils le mettent son plein gré, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'ils considèrent que la faute peut être dangereuse. Ou alors qu'elle annule une occasion de but, sauf qu'à 80 mètres des buts stéphanois, je pense que c'est pas possible. Donc ouais, non, celle-ci, elle pose encore plus de questions, parce que quand on voit les images, vraiment, c'est un croc en jambe, comme il y en a, comme le disait Paul. Il y en a dans tous les matchs et plusieurs fois par match. Si on met carton rouge systématiquement là-dessus, on finirait pas les matchs à 11 contre 11. Hein. On les finirait, ce serait un 5 à la fin. Donc c'est compliqué, et surtout que bon, sur le match-là, ça a peut-être moins de répercussions sur ce match. Les Verts étaient menés 2-0, il restait 5 minutes. Par contre, sur les matchs suivants, ça va en avoir. Si le carton rouge n'est pas annulé pour Thomas Monconduit, ça veut dire qu'il manquera forcément le match face à Bordeaux. Et voilà, donc ça peut avoir des répercussions sur les matchs suivants.
Je voudrais avoir votre avis aussi, vous me direz, Paul, mais je vois pas comment on peut l'enlever, ce carton. Parce que pour moi, alors je suis d'accord avec vous, hein, je pense qu'il pense à la semelle, premier abord, donc il sort le rouge, mais une fois que sorti, c'est fini, il n'y a pas de VAR, une fois de plus. Donc là, on est obligé d'assumer. Derrière, il reconnaît peut-être son erreur, ce que je crois que j'ai lu ou entendu plus ou moins dans les travées de Michel Moretti, mais une fois que c'est donné, c'est terminé. On peut pas, j'imagine pas un instant, sinon les 19 autres clubs de Ligue 2 vont aller monter directement à l'AFP en disant, moi je me rappelle une fois aussi, ou non, match. Pour moi, le carton rouge, c'est impossible. Il a un match automatique sûr, mais c'est impossible de l'enlever.
Juste apporter deux petites précisions. La première, c'est que les dirigeants stéphanois ont rencontré Monsieur Lega au terme de la rencontre. Selon la communication du club, hein, qui nous a communiqué cette information tout de suite après le match, Monsieur Lega a reconnu son erreur sur le pénalty. Les stéphanois ont constitué un dossier aussi pour faire retirer le carton rouge reçu par Thomas Monconduit. Ça sera jugé en commission de discipline mercredi. Je vous rejoins, Rodolphe, sur le fait qu'à partir du moment où il y a faute, parce qu'il y a faute quand même de Thomas Monconduit, c'est là la différence.
Ouais,
c'est que s'il n'y avait pas faute, qu'il ne l'avait pas touché, prenait rouge, pour moi, on peut réviser cette situation. Malgré tout, il y a quand même faute de Thomas Monconduit. Et c'est une faute qui lui aurait sans doute valu un carton jaune. C'est pas choquant. Donc ça me paraît quand même compliqué à défendre. Mais bon, ils ont l'air assez confiants du côté du club. Réponse mercredi soir.
Vous aurez bien sûr la réponse mercredi soir, comme vous l'avez dit, Paul Rivoli. En attendant, on va faire un petit tour du côté du ciel. Et puis on vous attend aussi 04 77 10 00 10 pour intervenir sur notre antenne. On va faire un petit peu l'état de lieu de ce qui va arriver, bien sûr, pour cette équipe des Verts. On ira aussi faire un tour du côté des notes, bien sûr, que vous avez données. Et puis on parlera des féminines en cette fin d'émission dans 100% Synthé.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, jusqu'à 19h. Pourquoi MAF Pro ?
Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 euros offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro. La MAF, je préfère la MAF. Conditions de l'offre sur maf.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Saint-Étienne-Loire, ici, on parle d'ici.
À 18h31, on va faire le point bien sûr sur la route, mais avant ça, direction le ciel, avec ce soleil qui continue de nous accompagner en cette fin de journée. Je vous l'ai dit, attention pour demain, va falloir sortir les parapluies, parce que oui, la pluie revient, le ciel sera gris cette nuit, avec en première partie en tout cas un temps sec. Par contre, après ça se dégrade dans les monts du Forêt, dans le Roannais, dans la région stéphanoise, ainsi que sur le Pilat, avec de faibles pluies qui se produisent dès le début du jour. Pour les températures demain, on sera sur autour de 5 à 8 degrés sur le relief, de 11 à 13 degrés dans les plaines et vallées. Côté trafic, on va faire le point avec, bien sûr, pour le moment, aucun gros point à vous annoncer, hein, si ce n'est les ralentissements habituels sur le pourtour de Saint-Etienne. Mais si vous voyez quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, 04 77 10 0 0 10. On vous attend ici sur France Bleu Saint-Etienne-Loire.
France Bleu Saint-Etienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
Et l'émission 100% Synthé continue ici sur France Bleu à Saint-Étienne-Loire avec Paul Rivoli et Joris Sabi, Rodolphe Montagnier. Vous êtes tous les trois là pour parler justement de ce match. Vous pouvez aussi intervenir sur l'antenne 04 77 10 00 10. On va accueillir Ludovic dans quelques secondes. Peut-être que Ludovic, il a appelé juste avant la météo, donc je pense qu'il voulait réagir par rapport à l'arbitrage certainement. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour. Donc en fait, c'est comme vous disiez, quoi. Hein, c'est que sur une année, on juge pas l'arbitrage sur une année, puisque ça s'équilibre. Moi, je voulais simplement dire que, en fait, aujourd'hui, depuis le début de la saison, le meilleur homme sur le terrain est pour moi celui qui a sa place en Ligue 1, c'est l'Arseneur. Le reste, Ça reste que des joueurs de Ligue 2. Et pour preuve, l'Arseneur, quand il s'est blessé, Saint-Étienne n'a pas gagné un match. Il a fallu qu'il revienne pour qu'on puisse regagner à nouveau. Et en fait, c'est là où c'est dramatique, c'est que lui tout seul, il ne peut pas arrêter des buts, il ne peut pas en marquer parce qu'il est gardien. Et je trouve ça dommageable. Après, Sissoko, il se blesse, ok. Mais enfin, il n'est pas transcendant dans ses attaques. Hein. Heureusement qu'on a recruté Cardona, parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas au niveau où on est là. Hein.
Après, sur l'Arseneur, c'est certainement le meilleur joueur de l'effectif de l'AS Saint-Etienne. Après, l'AS Saint-Etienne est pour le moment deuxième de Ligue 2. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il n'y ait qu'un seul joueur de foot dans cette équipe. Vous l'avez cité, Ibrahim Sissoko blessé, c'est quand même le meilleur buteur de l'équipe. Irvine Cardona qui fait quand même des prestations exceptionnelles. Donc voilà, après que l'Arseneur soit un joueur prépondérant dans cet effectif, presque indispensable, c'est possible. Que de là à dire que c'est le seul, je ne serais pas aussi sévère. Et les Verts d'ailleurs avaient gagné un match sans l'Arseneur, hein, face à Angers, avec Étienne Green dans les buts.
Le premier quand Green il est arrivé.
Mais après, derrière, c'est vrai que ça avait été un long chemin de croix sans Gauthier Arseneur. Mais ceci dit, il a aussi fait partie de la série de défaites de l'AS Saint-Etienne, puisqu'il est revenu, il me semble, deux semaines avant, et il est notamment de la défaite face à Guingamp, qui a raison de Laurent Batles sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, c'est pas non plus le joueur qui a tout gagné avec les Verts cette saison.
Ludovic, quel est le joueur stéphanois que vous avez trouvé le meilleur du côté d'Ajaccio ce week-end?
Enfin, le meilleur du côté d'Ajaccio ce week-end.
Le moins mauvais.
Le moins mauvais pour moi, ça reste encore l'Arseneur. Hein. Mais parce que moi, je le trouve tout à fait exceptionnel. Et à ma plus grande crainte, c'est qu'on ne puisse pas le garder l'année prochaine. Parce qu'il va être convoité.
Ça dépend ce que vous jouez, ça, Ludovic. On verra. Mais oui, il sera probablement convoité. Maintenant, il faut voir à quelle hauteur, il y a des offres. C'est toujours pareil.
Mais il a toujours fait la force de Saint-Etienne, hein, pour moi. C'est qu'on a toujours eu de grands, grands gardiens. Et aujourd'hui, il manque un homme de son envergure au milieu de terrain et en attaque. Et là, on aurait le niveau pour monter. Aujourd'hui, franchement, si on monte, et je serai le premier à être à en pleurer de joie. Hein, mais il va falloir recruter, hein, sincèrement.
Ouais, bon, ça, on est dans une seconde phase. Déjà, on va jouer la montée. On va voir si les Verts montent à la fin de la saison. Il sera bien assez temps de penser recrutement à ce moment-là. C'est compliqué de se projeter si vous savez pas encore ce que jouez la saison prochaine.
Merci beaucoup Ludovic d'avoir appelé. On va revenir justement sur ces notes, bien sûr, de l'équipe de la Saint-Etienne qui a joué ce week-end avec vous, messieurs Paul Rivoli et Joris Sabi, Rodolphe Montagnier. Mais avant ça, petite pause musicale histoire de bien se bouger un petit peu avec ce titre de Stéphane, c'est ma chérie sur France Bleu Saint-Étienne Noir dans 100% Synthé jusqu'à 19h. J'avoue, c'était hier chez nous. De nouveaux pièges, c'est lourd. Je sens ses yeux à moi. Mais c'est pas pour elle que je fonds. Puisqu'au fond, elle n'aime pas les blancs. Je pars à mon égard, son cœur déclare. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie.
C'était cool, mais toi et moi, ça va pas le faire. En tout cas, prends soin de toi.
C'est tout nouveau, c'est tout frais. Ma chérie Stéphane sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Paul Rivoli, Joris Sabi, Rodolphe Montagnier toujours avec nous ici dans le studio de France Bleu Saint-Étienne-Loire. On fait l'après-match, hein, bien sûr, de ce match qui a eu lieu ce week-end face à l'Ajaccio. Là, on va parler des tops et flops, hein, c'est ça?
Ouais, Ludovic nous disait que son top du match, messieurs, c'était Gauthier Larsonard. Bah, je vous pose la même question, Rodolphe Montagnier.
Ah, moi, je vous en pose une avant. Il a fait un arrêt, Gauthier Larsonard, dans ce match-là? C'est ça, ça m'a surpris quand je voulais pas oser, parce que du coup j'ai peut-être un peu oublié, mais je me souviens pas l'avoir vu un arrêt important ou décisif ou.
Non.
il a jamais été tranchant. Ah, c'est pas sa décharge, une fois plus. Il n'y a pas d'occasion. Il peut briller, a priori.
De toute façon, il peut.
Voilà, il peut rien sur les buts. Bref, pardon.
Bah, allez-y, Rodolphe, vous auriez mis en top, justement?
Moi, le joueur que j'ai trouvé le plus à l'aise sur cette pelouse-là, malgré tout, j'ai trouvé que Dylan Batoubensika faisait à peu près son match. Et d'ailleurs, j'avoue que j'étais même surpris quand il est sorti. Alors, je pense que c'est une question de temps de jeu aussi, d'équilibre de temps de jeu entre Anthony Briançon, ce fameux trio désormais qu'on a avec Michael Nadé. Mais j'ai trouvé, voilà, que ce joueur-là fait à peu près son match. Bien aidé, il faut le dire aussi. Je crois que vous évoquiez tout à l'heure, Joris, par la faiblesse des attaquants ajacciens. Parce qu'il n'y a pas non plus de brillants joueurs dans cette formation qu'on a vu, en tout cas, samedi après-midi sur la pelouse. Il y a de très bons joueurs, une fois de plus, hein, mais pas qu'il y a briller cet après-midi là.
Puis le scénario du match a fait que l'AC Ajaccio n'a pas eu forcément besoin de jeter son dévolu sur l'attaque, puisqu'ils ont très vite mené au score, bien aidés par l'arbitrage, et derrière ils avaient juste à gérer, à jouer un peu plus en contre. Donc ce qui a, je pense que les Ajacciens avaient un plan de jeu bien défini, mais qu'ils ont affiné avec ce scénario. Si les Verts avaient mené 1-0 au bout d'un quart d'heure, je pense qu'on aurait peut-être vu d'autres vagues déferler sur la cage stéphanoise, et on aurait certainement eu plus d'espace aussi du côté de l'AS Saint-Etienne en contre. Et ben moi, ça va être un petit débat, Rodolphe Fontanier.
Personne ne vous a demandé votre avis.
Si, vous avez demandé.
Oui, à Rodolphe, oui, mais vous s'en foutez, en fait.
Bah, je ne me prononce pas, alors.
Allez-y, Joris, allez-y.
Paul, c'est qui votre top, alors?
Allez-y, Joris. Alors,
pour moi,
écoute.
C'est le remplaçant. Je ne l'ai pas trouvé en super forme, justement, Dylan Batoubensika. Je préférais Michael Nadé à ses côtés, et je trouve que l'entrée d'Anthony Briançon a été pas mauvaise, et qu'elle a amené paradoxalement offensivement quelque chose. J'ai trouvé que pour un défenseur central, il a opéré un peu un dépensement de fonction. On l'a vu frapper notamment à un moment, et je trouve que dans ce match, c'est ce qui manquait un petit peu, justement, de un petit peu dépasser son rôle de défenseur et d'aller créer le surnombre. Et il a joué très haut, je trouve, à son entrée en jeu, Anthony Briançon, et c'est d'ailleurs ce que je reproche aux autres entrants, notamment Mahmoud Bentaïg, qu'on définit comme un profil offensif. J'aurais aimé justement que ce match-là, il n'y avait plus rien à perdre, on était mené 2-0, qu'il aille un petit peu justement amener ce plus offensivement, quitte à prendre des vagues derrière. Je veux dire que ça fasse 3-0 ou 2-0, ça n'aurait rien changé pour la Saint-Etienne, mais on aurait peut-être vu un petit peu plus offensivement.
Moi, j'avoue que je n'ai pas cité Michael Nadé, juste pour dire, parce que pour moi, il est impliqué sur le but de la tête, ce qu'on prend à 43 et 48e. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité, mais je suis assez d'accord avec vous finalement.
Au niveau des notes données par les supporters sur ce match, 5,1, c'est la seule note moyenne attribuée par les supporters. Elle est pour Gauthier Larsonneur. Complète le podium. Anthony Briançon, que vous avez cité, Joris, 4,8, et Michael Nadé 4,4. Les notes sont relativement basses. La transition est toute trouvée. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez trouvé en dessous, Joris par exemple?
J'ai trouvé globalement plutôt le milieu de terrain dans sa globalité, mais si je devais en citer un, ce serait peut-être Florian Tardieu, que j'ai trouvé on l'a pas assez vu sur ce match-là, encore une fois. Florian Tardieu, après, il a encore un rôle ingrat, qu'il est là pour réguler ce milieu de terrain-là, mais du coup je trouve qu'il est trop discret parfois, et notamment ce week-end en Corse. Mais attention, il y avait beaucoup, autant sur les derniers matchs on avait du mal à sortir des flops parce que les Verts sortaient plutôt de bonnes prestations, autant sur ce match-là on pouvait en sortir beaucoup, et c'est loin d'être le seul à être passé un petit peu à côté du côté de la Corse.
Rodolphe, d'accord avec cette analyse?
Oui, d'accord, et moi je rajouterais que celui qui m'a le plus déçu, mais parce qu'on attend forcément, quand on a un statut, il faut l'assumer, c'est Irvine Cardona, évidemment, parce que moi, quand je vois qu'on replace ce joueur à la pointe d'attaque, je me dis qu'on peut quand même compter sur lui. On l'a vu jouer en pointe, il est à l'aise quand même, et on l'a pas du tout vu, il a été totalement absent. Bien relié aussi, c'est pour ça que je fais le lien avec le milieu de terrain, ou Dylan Chambaud. Moi j'ai trouvé que Dylan Chambaud a vraiment été un ton en dessous, notamment dans les transmissions de balles, il en a perdu beaucoup dans mon souvenir aussi. Donc voilà, on voyait bien que sur le plan offensif, on n'était pas du tout armé face à cette équipe ajaxienne. Donc voilà, ces deux joueurs-là qui m'ont, mais une fois de plus, hein, c'est parce qu'on en a beaucoup d'eux désormais, parce qu'ils nous ont montré de telles choses que je me dis, bah oui, on sait qu'ils ont un niveau supérieur à ce qu'ils nous ont montré samedi après-midi. Honnêtement, on a entendu à tous les micros tous les joueurs dire qu'ils avaient été en dessous, donc c'est pas leur faire injure que de dire qu'ils ont été un tour en dessous, me semble-t-il.
Le milieu de terrain est très mal noté, hein, sur cette rencontre-là. 3,4 pour Benjamin Bouchoirie, Dylan Chambaud, 3,3 pour Flo Tardieu. Le joueur le moins bien noté par les supporters, 3,1, c'est Léo Petro sur cette rencontre.
Ah, c'est bizarre, hein, je m'attendais pas du tout. Alors autant Benjamin Bouchoirie, oui, c'est devenu, il est passé de star de cette équipe là à pushing ball désormais, parce que Benjamin Bouchoirie, le pauvre, c'est lui qui est sur le penalty en plus. Ouais. C'est lui qui touche ce ballon du dos, le pauvre garçon. Donc
mais pareil, lui, j'aurais aimé balle au pied, c'était un match comme ça où on aurait eu besoin de ses qualités, et pareil, on l'a pas assez vu.
Les notes, on en a parlé, on va faire bien sûr l'état des lieux de cette équipe de la SS Saint-Etienne pour voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. On revient ici sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Ne bougez pas.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Etienne Noir.
Bleu 6-9, France Bleu Saint-Étienne-Loire, Eddy Gavron.
Tout au long de cette semaine, France Bleu Saint-Étienne-Loire se met aux couleurs du printemps avec des rendez-vous qui vont vous enthousiasmer. J'aurai des entrées à vous offrir pour le parc Acrobranche de France Aventure à Saint-Étienne. Dans les rendez-vous du jardin, Romain Musard vous aidera à rempoter vos plantes vertes. Et puis nous vous expliquerons que pour gagner un peu d'argent, vous pouvez louer votre piscine. Du bon temps, du sourire et de la musique, c'est la matinale. À demain 6h.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
Merci d'avoir choisi France Bleu Saint-Étienne-Loire pour vous accompagner en ce lundi soir. Messieurs, Paul Rivolier, Joris Sabi, Rodolphe Montagnier, c'est quoi la suite pour cette équipe de Saint-Étienne avec notamment ce gros match qui arrive là?
J'ai presque envie de vous dire qu'avant de parler de la Saint-Étienne, la suite pour les Verts, c'est le match de ce soir entre Grenoble et Angers qui déterminera si oui ou non cette 32e journée de Ligue 2 a été une journée blanche pour les équipes de tête, à savoir la défaite de la SS et la défaite d'Auxerre. Si Angers ne prend pas de points sur la pelouse de Grenoble, c'est un statu quo et finalement on n'aura pas fait une si mauvaise opération que ça en perdant, qui plus est avec la défaite de Laval derrière nous, même s'il y a des aiguilles qui reviennent comme le Paris FC. Maintenant, si les Angevins sont amenés à prendre des points du côté de Grenoble, c'est quand même pas la belle opération du côté des Verts. Donc il faudra, avant de penser à ce match de Bordeaux, messieurs, peut-être avoir un œil sur ce qui se passe.
Ouais, mais j'allais vous dire, Paul, ils doivent dire la même chose des Angevins. Enfin, on peut dire la même chose des Angevins. La semaine dernière, ils se disaient, ça y est, on est derrière. Et puis finalement, ce week-end, ils sont à la hauteur de peut-être de la Saint-Étienne, voire peut-être devant. Je crois que c'est c'était Patrick des États-Unis qui disait tout à l'heure, c'est Ligue 2, elle est quand même incroyable.
C'est n'importe quoi.
Quand on voit, une fois de plus, on en a parlé ensemble, quand on voit que Rouen qui est capable de battre le leader en en plantant 4, on peut même imaginer que le week-end prochain, mais il peut se passer n'importe quoi. Mais même ce soir à Grenoble, on peut imaginer que Angers l'emporte 6-0, pourquoi pas.
Oui, oui.
Mais non, mais tout vraiment, cette Ligue 2, elle est vraiment, pour moi, elle est lisible.
Il est annoncé, le score.
Pour moi, elle est lisible. Donc, du coup, franchement, ça m'inquiète presque pas. Les autres m'inquiètent presque pas. C'est une fois de plus, moi, c'est la réaction stéphanoise à laquelle je serai la plus attentive.
Non, mais ce qui est vrai, cette Ligue 2, sur les 6 derniers matchs, personne n'est capable de sortir les résultats de toutes les équipes. En fait, il n'y a pas vraiment de favoris à chaque match. Je trouve que la SS, pour moi, la Saint-Etienne sera favorite sur ces matchs à domicile avec ce public-là. Ça peut faire du guichet fermé à chaque match et ça va les pousser, ça c'est sûr. Par contre, sur les matchs à l'extérieur, encore une fois, on va avoir, je pense, des matchs dans le même style que celui de ce week-end où le premier but sera capital et où il faudra pas passer à côté. Et là, il y aura pas toujours l'arbitrage en notre défaveur, mais il va falloir aussi un petit peu se faire violence et aller les gagner 1-0. Un match comme celui de ce week-end, il aurait pu être gagné 1-0 comme Concarneau, de manière un petit peu pas belle, mais de prendre les 3 points. C'était ce qu'attendaient les Verts, ce qui ne s'est pas passé.
Et à noter que ce match face à Bordeaux lancera le début d'une semaine capitale dans le sprint à la montée, puisque rappelez qu'il reste 6 matchs à jouer, vous l'avez dit messieurs, et que ces 3 de ces 6 matchs vont se jouer sur la même semaine pour les Verts. C'est donc un déplacement, la réception par contre de Bordeaux, un déplacement à Grenoble mardi soir, puis la réception de Caen. Je vous donne le calendrier d'Auxerre, déplacement à Rodez, réception de Laval, déplacement à Dunkerque, et les Angevins, réception de Troyes, déplacement à Guingamp et déplacement au Paris FC, deux équipes qui sont en course pour les barrages. Est-ce que pour vous, la montée va se jouer sur cette semaine décisive pour la Ligue 2?
Se jouer, je ne pense pas, parce que je pense que vu l'écart qui est assez moindre, si ce n'est Auxerre, s'ils font carton plein, où ils y seront quasiment déjà, en ce qui concerne Angers et Saint-Etienne, je pense qu'il faudra cravacher jusqu'au bout. En revanche, je trouve que sur ces 3 journées, l'AS Saint-Etienne a quand même un calendrier qui est plus abordable que les deux autres formations, parce qu'on reçoit déjà à 2 reprises. Et je trouve que Rodez, c'est une belle équipe de ce championnat de Ligue 2. Ça va pas être facile d'aller jouer là-bas. Il y a une confrontation entre Laval et Angers qui sera pas facile non plus. Donc, entre Laval et Auxerre, pardon. Oui. Donc, je pense que l'AS Saint-Etienne a tout à gagner sur ces 3 matchs-là. Mais par contre, il va falloir y mettre les ingrédients beaucoup plus que ce qui s'est passé ce samedi en Corse.
Moi, j'ai le sentiment que c'est ce fameux 1 et 2 premières places. Voilà, c'est celle-là qu'il faut viser malgré tout. Je pense que c'est quand même une semaine super importante. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on est quand même bien parti, nous, à Saint-Etienne, pour finir au moins à l'une des 5 premières places. Voilà, c'est plus ce sentiment-là. Une fois de plus, moi, sur l'ensemble de la saison, je me dis c'est déjà quasiment, pour moi, inespéré.
Bon, on a bien compris que Rodolphe, avec ce 6-0 annoncé pour Angers du côté de Grenoble, vous avez déjà choisi votre camp.
Si l'arbitre de Veillon, hier soir, est allé dormir à Grenoble.
On on a fait le point, bien sûr, à suivre forcément ce match ce soir qui aura lieu pour savoir si l'AS Saint-Etienne reste à la seconde position. On va revenir aussi sur ce match qui a eu lieu ce week-end des féminines, mais pour le moment, retour en musique avec ce titre, ce fameux titre que vous aimez danser dessus. Johnny Clegg, ça vous casse, c'est pour vous ici sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Savouka, je ne vais pas l'annoncer en anglais parce que ça va être une catastrophe. Bref, merci.
Ah, vous n'êtes pas joueur, Pauline.
Oh, je vous laisse le faire joueur. Si vous voulez, Paul.
Hein. Moi, le problème, c'est que je ne vois pas clair. Ce n'est pas le problème de l'anglais, c'est que je ne connais pas le titre.
Si c'est ça, je vous donne la feuille.
Scartelings of Africa, c'est ça?
Ouais, par là. Bon, bref, on est peut-être meilleur au foot, je pense.
Non, pas sûr. Non, c'est pas certain.
Justement, on parle de foot ici sur France Bleu Saint-Etienne Noir et puis on va revenir sur ce match aussi également qui avait lieu ce week-end. Les féminines qui, lourde défaite. Hein.
Ouais, hier soir du côté du stade Geoffroy Guichard, ça s'est pas très bien passé pour les filles de la SS qui affrontaient l'OL dans un derby. Dans un derby délocalisé, je le disais, dans le chaudron, voilà, affiche exceptionnelle devant un peu plus de 4000 personnes. Malheureusement, Rodolphe, Joris, ça s'est très mal passé pour les Vertes qui se sont inclinés 6 buts à 1.
Ouais, très mal passé. Si on regarde le score comme ça, on se dit quoi, elles ont pris une raclée. Après, c'est en fait la logique a juste été respectée. C'est l'une des deux meilleures équipes d'Europe qui se présentait à Geoffroy Guichard face à une équipe qui vient de décrocher son maintien en D1 Arkema.
Je trouve que le parallèle est intéressant. C'est l'AS Saint-Etienne qui jouerait contre le Real Madrid ou Manchester. Manchester City aujourd'hui. Hein, c'est ça le parallèle qu'il faut faire.
Hein. C'est qu'en fait, il y a de telles disparités dans cette DR Arkema.
Rodolphe, vous êtes en train de dire que les Verts peuvent pas battre Manchester City?
Pas tout de suite, j'y crois pas tout de suite. Sans Ibrahim Sissoko, j'y crois pas tout de suite.
Ah, vous voulez un duel à Land Sissoko?
C'est ça.
Je vous rappelle que Land et Wadji étaient.
Oh là là, ça y est. 55 minutes, il a tenu. Incroyable.
Enfin bref, non mais voilà, ça, la logique a été respectée hein, du côté des féminines des deux clubs. Il y avait une classe d'écart, hein, tout simplement, voire même plusieurs.
Il y avait même une taille, hein, une fois de plus. Moi, c'est ce qui, l'image qui m'a choqué, c'est vraiment quand elles sont à côte à côte dans le couloir. Quoi.
Ouais, complètement.
Je me rappelle avoir vu l'image du PSG contre Côte Chaude, ce match de Coupe de France où on voyait. Bah, c'était à peu près ça, hein, honnêtement, c'est à peu près ça. C'est le parallèle qu'on peut faire.
Foot féminin, actuellement, il y a beaucoup de différences qui se font au niveau athlétique et les Lyonnaises sont beaucoup plus athlétiques que les Vertes. Il y a un exemple qui est criant, c'est Wendy Renard qui, sur les corners, a pris systématiquement tous les ballons de la tête et ça a fait énormément de mal dans le domaine aérien du côté de la Saint-Etienne qui d'ailleurs dans le jeu n'a pas été ridicule, il y a eu des belles sorties de balles, il y a eu ce but, c'est quand même une performance pour la Saint-Etienne de marquer un but face à l'OL parce que l'OL n'en avait encaissé que 9 cette saison mais c'est vrai que c'est ce qui est presque rageant, frustrant pour les Vertes, c'est qu'elles n'ont pas pris beaucoup de buts dans le jeu mais plus sur les coups de pied arrêtés, c'est ce que regrettait d'ailleurs l'entraîneur Laurent Mortel en conférence de presse après la rencontre.
Rodolphe Montagnier, vous qui êtes un habitué du stade Geoffroy Guichard, un petit mot sur le contexte, ce match délocalisé. On sait que les filles d'habitude jouent sur le stade Salif Keita, un peu plus de 4000 personnes. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Les 4000 personnes, franchir la barre des 4000 personnes. J'ai regardé du coup les affluences précédentes. J'ai regardé Bordeaux 400 et quelques personnes, donc vous faites quasiment 10 fois plus.
Le Bordeaux-Saint-Etienne qui s'était joué en baissé de rideau du match de Ligue 2.
Incroyable. Hein. Et j'ai regardé Dijon, le match encore avant, 148 personnes. Enfin là, elles font 4000. Je trouve ça plutôt. Alors évidemment, ça sonne creux dans un stade de 40 000. Évidemment, ça fait des images qui sont pas forcément très 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 belles. N'empêche que j'ai trouvé qu'elles jouaient crânement leur chance sur une pelouse qu'elles connaissent pas forcément. Elles ont quand même bien couru, il me semble qu'elles étaient bien fatiguées. Elles se sont bien données. Elles ont pris du plaisir à jouer ce match-là, malgré le gap sportif qui était vraiment énorme. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt une première intéressante.
D'accord avec ça, Joris Sabine?
Par rapport au match aller, le score avait été quasiment le même, 6-0 pour l'OL. J'ai trouvé que les Vertes, elles ne sont pas passées à côté de l'événement, en tout cas. Hein. Comme on le disait, ça s'est joué sur des détails, de gros détails. Hein. C'est-à-dire, sur les coups de pied arrêtés, elles se sont fait manger, hein, les Vertes. Mais mine de rien, ça reste quand même un détail du jeu et que je pense que malheureusement, athlétiquement, vous le disiez, Rodolphe, elles n'étaient tout simplement pas armées face à cette équipe de Lyon. Et je trouve que dans le jeu, elles ont joué. Elles ont eu des situations. Il y a eu ce but, alors qu'il intervient. Je vous invite à le regarder. C'est quand même une grossière erreur de la défense lyonnaise. Mais il y a quand même inscrire un but face à l'OL, c'est pas donné à tout le monde. Et quand on voit comment elles dominent ce championnat, même face à Paris hein, cette saison, elles
n'ont pas perdu un match. Hein.
Donc il va cette saison, c'est sous forme de play-off que ça va se décider le titre. Mais je pense que les Vertes ont perdu hier face aux championnes de France.
On a tout dit. Voilà, on a fait le point. Prochain match des féminines peut-être. Match en retard face au Paris FC. C'est un horaire un peu inhabituel. Ça sera vendredi en tout début d'après-midi, 13h30 ou 14h.
13h30 je crois que j'ai
13h30,
ouais, 13h30 vendredi après-midi.
Vendredi 13h30, hein, ça incroyable. C'est bien pour que les gens viennent voir du football.
Ah, c'est sûr que là, il y a du monde.
En plus.
C'est gratuit en plus, alors comptez bien.
Merci beaucoup messieurs d'être venus ici sur l'antenne de France Bleu Saint-Etienne. Alors pour parler bien sûr de la Saint-Etienne, Paul Rivolier, Joris Sabir, Rodolphe Montagnier. On vous retrouve bien sûr très prochainement ici sur l'antenne de France Bleu Saint-Etienne Loire. Pour ma part, on se retrouve aussi également. J'ai presque envie de dire toute la journée.
Toute la journée, non. Vous commencez à quelle heure demain, Kevin? 6h et vous raccrochez à 19h, non? C'est ça qu'ils vous ont prévu à France Bleu?
Non, ça sera le 11h midi. On jouera ensemble, bien sûr, avec deux places pour Frédéric François pour vous aller au Zénith, tout simplement, de Saint-Etienne. Et puis 100% Saint-Etienne qui revient, bien sûr, dès demain soir. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée.